Dans Malaki, il y a six discours. Si on découpe le livre de Malaki, je rappelle que c'est le dernier prophète qui a parlé officiellement de la part de Dieu. Donc Dieu a parlé au travers de Malaki avant la venue de Jésus. Et entre ce livre et Jésus, la venue de Jésus, il y a eu 430-450 ans, je ne sais plus exactement le chiffre, qui a séparé. Donc, il y a eu un silence de Dieu, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, sauf là, un silence complet de Dieu, où il avait tout dit, et du coup, c'était la venue de Jean-Baptiste et de Jésus qui est arrivé. Je ne vais pas tout lire, parce que je l'avais lu la dernière fois, hein, vous pouvez le relire chez vous, sauf que je vais l'afficher quand même. Ça commence au verset 6 du chapitre 1er. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Voilà, vous offrez sur mon autel les aliments impurs, etc. Donc, relisez ce passage-là. Le chapitre 2, verset 1er, c'est une. Là, ce discours est découpé en deux discours, en deux adresses de la part de l'Esprit. Jusqu'au verset 14, c'est le peuple. Et ensuite, à partir du verset 1er du chapitre 2, il s'adresse aux sacrificateurs, donc aux prêtres. Maintenant à vous, cet ordre, sacrificateur, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom de l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Vous vous rappelez Balaam et Balak, Balak qui voulait que Balaam maudisse le peuple et Dieu n'a pas permis, il a béni. Et là, c'est l'inverse. C'est que Dieu a décidé de maudire si les sacrificateurs, donc les chefs du peuple d'Israël, ne changent pas de comportement. Et parce que ils sont. Même s'ils bénissent le peuple, Dieu va le transformer en malédiction. C'est terrible, ça. C'est terrible qu'à la fin. De ce temps d'Israël, hein, de ce temps de l'Ancien Testament, il y a cette menace de la part de Dieu de transformer les bénédictions en malédictions. Et ça ouvre un petit peu la porte à la venue du Messie. Il n'y a qu'un Messie, il n'y a que Jésus, qui peut sauver cette misère du peuple de Dieu. Et souvent... Aussi aujourd'hui, les chrétiens, en particulier évangéliques, eh bien, nous sommes vraiment en perdition. Parce qu'en fait, nous avons le même état d'esprit qu'Israël, hein, centré sur nous, centré sur nos besoins, centré sur notre confort, centré sur nos petites choses, au lieu de voir la gloire du Seigneur. Il a dit, parce que vous méprisez, eh bien, je transformerai vos malédictions en bénédictions. Et grâce à Jésus, eh bien, c'est devenu... une bénédiction parce qu'il a porté nos malédictions. Voyez-vous, il n'y a que Jésus qui peut être en aide. Et c'est pour ça, la grâce de Dieu, c'est que eh bien, Jésus nous vient en aide et nous fait grâce. Et c'est pour ça que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Nous sommes sous la grâce. Mais la grâce ne veut pas dire faire n'importe quoi. Au contraire, c'est encore plus honorer notre Dieu et le bénir et le craindre. Amen. Alors, ce deuxième discours, donc vous le relirez chez vous, hein, voilà. Ce deuxième discours est le plus long. Il y a d'autres discours qu'on verra plus tard, mais c'est celui qui est le plus long. La première partie donc s'adresse au peuple, et la deuxième aux prêtres, aux sacrificateurs, aux chefs. savez, les chefs seront toujours, quels que soient les chefs, hein, Charles a parlé du pasteur principal, hein, qui est le chef, dans le sens où c'est le premier, eh bien, il aura à répondre beaucoup plus que le peuple, beaucoup plus, parce que le Seigneur est très très sévère avec le peuple, avec les chefs, celui qui sont les premiers, surtout s'ils donnent le mauvais exemple. Parce qu'en fait, on suit l'exemple, celui qui est devant, hein, celui qui lead. Eh bien, c'est très très grave s'il y a une déviance. Et le Seigneur ne badine pas avec cela. Alors, la question du culte. Donc, ce discours-là concerne le culte. Le Seigneur en veut à Israël, donc aux sacrificateurs, parce que le culte qu'ils apportent n'est pas bon. Le culte est mauvais. Alors, c'est quoi un culte ? J'aime bien les interactions, mais je ne fais pas ça pour mettre mal à l'aise. Hein. Surtout, ne répondez pas si voilà, vous n'êtes pas très à l'aise. Mais il y en a qui, voilà, qui donnent des réponses. Voilà. Ça permet d'avoir une petite interaction avec la salle. Votre avis, c'est quoi un culte ? Parce qu'on utilise le mot culte. Vous savez, l'église catholique dit c'est une messe. En Angleterre et aux États-Unis, ils disent quoi ?
Service.
Vous voyez, c'est pas la même chose. Ils vont au service. Et en France, on dit aller au culte. Vous avez remarqué que c'est pas la même chose ? Peut-être dans d'autres pays, je sais pas. Je vais pas regarder en Corée ce qu'ils disent. Si c'est un culte, si c'est un service, je sais pas. Nous, on va au culte. Vous venez au culte. Ce matin, c'est un culte. Et c'est quoi la définition d'un culte pour vous ? C'est important, puisque vous venez ici...
Pardon ? Un temps d'adoration, un temps consacré...
Ouais.
Pour partager...
Tout à fait. Il y a d'autres réponses que vous voulez donner ? Le mot culte, oui ?
Peut-être un rassemblement de plus de deux ou d'autres personnes ou plus.
Avec d'autres personnes, c'est ça ?
D'autres personnes ou plus.
Ah, deux personnes ou plus. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est un rassemblement pour toi, le culte. Pardon ?
Une offrande.
Ouais. Oui, c'est important quand même qu'on vous sachiez pourquoi vous venez au culte. C'est quoi la raison du culte ? Quelle est... Pardon ?
C'est un sacrifice qu'on amène.
C'est un sacrifice qu'on amène, ouais. Dans un culte, oui.
Célébrer,
oui. Pardon ?
C'est tout ça.
C'est tout ça, sauf que j'attendais un mot que je veux vous dire. C'est vénérer. Le culte, c'est vénérer quelqu'un. C'est la vénération. En tout cas, vénération, c'est le respect, le service, la dévotion, le dévouement vers quelqu'un. C'est apporter un culte à quelqu'un. Vous pouvez apporter un culte, on le verra, à une idole. Vous pouvez apporter un culte. Le culte, c'est très très large, voyez-vous. Service, qu'est-ce que c'est l'autre ? Messe, voilà. Messe, en fait, c'est la répétition du sacrifice de Jésus. Hein. C'est ça, la messe. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, les catholiques qui viennent à une messe, ils savent pourquoi. C'est parce que l'Eucharistie est centrale. Sinon, il n'y a pas de messe. Mais nous, c'est un culte. Et vous voyez, le culte, c'est pas très très bien saisi de ce que c'est un culte. En fait, on donne un culte à une divinité. On vénère quelqu'un de très, très, très important. Alors, il y en a qui vénèrent des hommes, voilà, donc c'est des idoles, et il y en a qui vénèrent Dieu. Est-ce que vous venez vénérer Dieu quand vous venez dans un culte ? C'est ça la vraie question. Si vous venez dans ce culte ici, ou dans n'importe quel culte dans le monde entier, vous êtes censé venir pour vénérer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin à la louange ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit dans les paroles concrètes ? Nous adhérons, nous louons, nous te remercions. Voyez-vous, on a vénéré qui ? Voilà. Vous voyez, il faut être pratico-pratique. Hein. Voilà. Donc le culte, c'est venir vénérer quelqu'un qui est digne de vénération.
Si là, il y avait le président de la République qui venait, je suis sûr que vous le lèveriez simplement par respect, même si vous n'êtes pas de son bord politique, ce n'est pas le problème. Mais vous voyez, on a un respect, on vénère quelqu'un. En plus, le Dieu de l'univers. Regardez ce qu'on a chanté. L'univers est grand. Tu as créé l'univers. Tu as magnifié. On magnifie celui qui est à l'origine, la source de toute chose. C'est ça le culte. On lui apporte un culte. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est la définition du culte. Voilà. On apporte un culte. Donc, c'est lui donner notre amour, donner l'amour au Seigneur, notre respect, notre service, notre dévotion, notre vénération et la révération, révérer quelqu'un. Voyez-vous ? Vous êtes d'accord ? Dans Luc, chapitre 4, verset 8, Jésus répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. » Lui seul. Charles a parlé de service. Nous sommes tous à son service. Toute l'assemblée est remplie de serviteurs. Il y en a certains qui dégagent du temps plus que d'autres. On peut appeler ça diacre, mais nous, on ne veut plus utiliser de titre à partir de maintenant. Mais diacre, c'est la diaconie. C'est ceux qui sont dans la diaconie. Moi, sur mes organigrammes, vous verrez diaconie. Parce que diaconie, ça veut dire service. On est au service. On est au service du Seigneur. Hello ? On veut servir Dieu. On veut servir Dieu dans le culte, dans l'évangélisation, dans notre témoignage, dans nos relations, etc. Vous voyez, c'est servir, c'est apporter la reconnaissance à celui qu'on reconnaît être notre maître. Alors, c'est ça le culte. Voyez-vous, donc le culte, c'est pas uniquement réservé au dimanche matin ou d'autres moments, mais c'est une attitude de révération, de vénération. On pourrait définir le culte de dimanche, en tout cas, comme l'ensemble des manifestations de respect et d'amour envers un Dieu. C'est la seule autorité qu'on reconnaît dans le culte. Et par contraste, on peut appeler idolâtrie, idole, un culte rendu à une idole. C'est aussi un culte. Voyez-vous, c'est pour ça que le mot culte est neutre. Hein. Vous pouvez rendre un culte à Dieu ou rendre un culte à une idole. Et en fait, on est passé... Enfin, vous êtes passés, j'espère tous, sinon on va faire un appel à la foi, des idoles à Dieu. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, et il y a 36 millions d'idoles, autant que de personnes sur la planète. Et si nous mettons une personne, ou une chose, parce que l'idole c'est une chose, hein, au-dessus de notre amour pour Dieu, nous adorons cette chose ou cette personne. Et donc, nous apportons un culte. On appelle idolâtrie dans Exode 20, chapitre 20, verset 3. Et Jérôme, justement, encore hier, il a mis le doigt sur l'idole du pouvoir. Il y a tout plein d'idoles. J'ai fait toute une série, les idoles du cœur, les idoles toutes sortes. Ça peut être des idoles intérieures ou des idoles extérieures. Ça peut être le travail, ça peut être toutes sortes d'idoles. Là où on met notre amour, au-dessus de Dieu. Si on met l'amour au-dessus de Dieu sur notre travail, eh bien notre travail sera soumis à Dieu. Vous voyez ? Et on en aura le dimanche, par exemple. Le dimanche, le jour du repos, ça commence à se perdre même parmi les chrétiens, hein, eh bien c'est en étant, bien sûr, au culte, mais aussi avec les frères et sœurs, et en s'occupant des choses du Seigneur, c'est là qu'on honore, c'est là qu'on voit le fruit de notre culte. C'est vraiment le culte, il est rendu à Dieu ou à d'autres choses. Pour revenir au passage donc, qu'on a lu, donc le premier, un fils honore son père, ce deuxième discours commence par un ton critique. Dieu critique le peuple. Il emploie une analogie utilisée dans les rapports humains. Même si l'Éternel est le maître et le père d'Israël, Israël a méprisé son nom. Voilà la sanction que Dieu donne sur Israël. Dieu s'adresse directement au prêtre, mais implique tout Israël. L'enjeu, c'est le cinquième commandement. Vous savez, on revient toujours aux bases de ce que Dieu a donné à son peuple. Il a donné les 10 commandements. Vous les connaissez, les 10 commandements ? Je ne vais pas vous demander de les lire, mais il y a des films là-dessus. Vous avez vu Ben Hur, le film, enfin voilà, des films à grand spectacle, voilà. Les 10 commandements, où Dieu a gravé avec son doigt les 10 commandements dans la pierre. Hein. C'est pas rien quand même, pour le donner à Israël. Eh bien, c'est le 5e commandement, dans Exode 20, verset 12, que le Seigneur cite dans ce texte de Malachie. Honore ton père et ta mère. Incroyable ça. On se dirait, ben, honore Dieu, oui, c'est le premier commandement. Mais le 5e concerne nos relations. Et nos relations très concrètes. Honore ton père et ta mère. Et tout commandement est suivi d'une conséquence. Hein, si tu ne le fais pas, si tu le fais, si tu le fais pas. Si tu le fais, c'est afin, donc je cite Exode hein, 20-12, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est tout bête. Si tu honores ton père et ta mère, eh bien tes jours se prolongeront. C'est une bénédiction. Honorer ne veut pas dire être d'accord avec tout ce que font père et mère. Mais c'est de reconnaître ce qui est bien, puis de laisser tomber ce qui est mal. Voyez-vous, on a la maison d'Élie qui nous a pris tout ça. Dans Deutéronome, chapitre 5, verset 16, le fait d'honorer père, ton père et ta mère, il promet la sécurité du territoire en cas d'obéissance, mais prévient de l'insécurité qui régnera en cas de désobéissance. Et aussi, il n'y a pas l'honneur. Là, c'est très concret dans une famille, voilà, entre père et fils, etc. Eh bien, il y a l'insécurité. L'insécurité qui sera la conséquence, qui régnera de cette désobéissance. Si vous prenez Ésaü, par exemple, Ésaü et Jacob, la grande faute d'Ésaü, c'est qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Il a eu un droit d'aînesse, parce que, voilà, il est sorti le premier, bon, c'était la règle. Hein. Mais son droit d'aînesse permettait de reconduire les bénédictions de son père. Hein, c'était de père en fils, de fils qui devient père à fils, etc. Mais c'était une règle hein, en Israël. Et on respecte les règles que Dieu donne. On ne doit pas les discuter. Vous voyez, c'est quand même lui qui est au-dessus de nous. Voilà. Eh bien, parce qu'il a méprisé ce droit qu'il a reçu et il l'a laissé à Jacob, eh bien, il a été rejeté par Dieu. Il a eu de l'insécurité dans Israël à cause de ça. Et il a dû fuir ensuite, après, quand Jacob a pris la relève. L'auditoire de Malachie méprise, c'est ça qui lui est reproché, ce que Dieu lui a donné. Et qu'est-ce que Dieu a donné à ce troupeau de l'époque de Malachie hein? Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Malachie? Voyez-vous, la Bible est très concrète, hein? Elle est liée à l'histoire. Nous, on est dans une histoire aussi. Hein? Donc il faut tout ramener à ce que nous vivons aussi. À l'époque de Malachie, puisqu'on est en train de lire Malachie, quelle était la chose parce que je vais vous le dire après, qui aurait dû être prise en considération pour ne pas être méprisée. Qu'est-ce qu'ils n'auraient pas dû mépriser, par exemple? Pardon? Oui, mais historiquement, vous voyez, c'est pour ça que la Bible, il faut la mettre dans l'histoire, il faut connaître l'histoire, parce que la Bible est historique. Vous voyez, oui, il y a Adam et Ève, il y a le retour du Seigneur qu'on attend, mais entre deux, il y a une histoire. Et Dieu est dans l'histoire. Moi, je me suis converti parce que en 67, j'ai vu que Dieu agissait dans Israël. Israël, voilà, et ça m'a touché. Je dis, ben, c'est pas un Dieu juste qui est dans l'espace intersidéral, etc. Bon. Ça m'a touché. Et c'est quand vous mettez Dieu dans l'histoire, dans votre histoire, dans notre histoire, etc., là, on voit mieux les choses concrètes. Quelle était l'histoire que ce peuple a vécue pour lequel il n'aurait pas dû mépriser? Et il l'a méprisé. Voyez-vous, c'est de l'histoire, là. Pour ça, il faut bien situer l'histoire. Vous voyez, là, en ce moment, là, l'école du dimanche, les monitrices apprennent l'histoire pour que petit à petit, après, ça revienne. Parce que c'est ça la compréhension de la Bible. Il faut replacer ça dans l'histoire. Eh bien, c'est le retour d'exil, entre autres. Ils étaient en exil. Hello ? Je ne vous apprends rien, là. Ils étaient à Babylone. Hein ? Ils sont partis en exil parce que déjà, ils n'avaient pas suivi les cultes honorés, etc. Enfin, je passe là-dessus. Donc, ils ont été déportés. Et en déportation, ils étaient esclaves. Ils étaient, voilà. Et quand ils sont revenus, c'est au temps de Malachie. C'est dans les temps de Néhémie, Malachie, Esdras, etc. Donc, ils auraient dû être quoi ? Reconnaissants, non ? Est-ce que les Français étaient reconnaissants ou pas quand les Allemands étaient vaincus ? Enfin, ceux qui sont français, en tout cas ici, voilà, de souche. Je pense que dans toutes vos familles, vous avez entendu des histoires de guerre horribles. Ma mère racontait tout le temps ce qu'elle a vécu, parce que c'était horrible, dans toutes les guerres d'ailleurs. Hein. Bon, le pays où vous êtes, vous avez certainement aussi des guerres. Mais en France, on était heureux d'être libérés du joug des nazis. Je dis quelque chose qui vous parle ou pas ? Donc, quand les Juifs sont revenus d'Israël, ils auraient dû être reconnaissants, oui ou non ? Ils sont revenus, mais ils ont été libres. Parce que quand vous êtes en esclavage, vous n'êtes pas libre. Voilà. Donc, la liberté aurait dû faire que, naturellement, ils soient reconnaissants à Dieu de ce qu'il les a amenés à revenir dans la liberté. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas reconnu ce retour d'exil. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Malachie aussi ? La deuxième chose qui est très importante pour le peuple d'Israël, c'est aussi d'histoire. Esdras et Néhémie, ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pardon ? Ils ont refait le temple. Ils ont refait le temple. Ils ont refait le temple, oui, les murailles, mais d'abord le temple. Le temple pour adorer Dieu. Quand ils sont revenus, il n'y a plus de temple. Donc où est-ce qu'ils adorent ? Ils n'ont pas de temple. Et enfin, les sacrifices que Charles a dans le temple pour avoir la faveur de Dieu. Mais les amis, c'est ce qu'on a vécu ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre les choses dans l'histoire. Ici, en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, c'est exactement ça, Dieu nous a donné ce bâtiment. Et en fait, c'est un retour d'exil des Huguenots, tout simplement. Parce que les Huguenots, ils vivaient là-haut, il y a 500 ans, et le Seigneur nous a montré par révélation, qu'ils ont donné un bâton spirituel pour ceux qui allaient les suivre, pour continuer l'œuvre ici. Donc nous sommes dans une transmission générationnelle où ils sont partis en exil, ils sont partis en Allemagne, surtout à Londres, en Pays-Bas, tout ça, voilà, révocation de l'édit de Nantes, 1685. Et nous, nous sommes les héritiers. Voyez-vous, si nous croyons, il y en a qui croient ici à la transmission intergénérationnelle. Ben, si nous y croyons, nous faisons partie de ceux qui ont adoré ici, dans cette ville, qui était une ville refuge. Vous savez, les Huguenots, quand il y en a qui viennent, des chrétiens, par exemple Timothée, tout de suite, ah, c'est une ville refuge ici. Tout de suite, ça leur parle. Parce que les villes refuge, c'est que c'était une protection. Il y a une protection parmi, au temps de Louis XIV, quand il y avait la persécution, il y avait une protection dans les villes refuge. On était une ville refuge, enfin, Aubergenville. Et vous voyez, la Bible dit, dans Hébreux, il faut penser à la nuée de témoins qui nous ont précédés et qui vont nous suivre. On est tous mortels. Il y a quelqu'un qui est immortel ici dans la salle ? J'aimerais le rencontrer. Bon, bah, donc ça veut dire qu'on va être suivi par quelqu'un et on est précédé de quelqu'un. Donc il faut reconnaître cette lignée, voyez-vous ? Il ne faut pas être égoïste parce qu'on dépend de ceux qui nous ont précédés et on va donner le bâton de relais à ceux qui nous suivent. Oui, c'est ça que, en tant que chrétien, on oublie trop. On est trop individualiste dans notre société. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas le cas, heureusement. Mais je voudrais que les Africains qui viennent ici, eh bien, nous aident à transmettre ça, à garder ces valeurs. C'est une valeur importante. La valeur de la famille, la valeur de la transmission. Eh bien, nous sommes des retours d'exilés. Nous sommes des retours d'exilés, des Huguenots qui sont revenus. Deuxièmement, il nous a donné ce temple. Ça, c'était une ruine. Pendant 10 ans, la mairie a voulu la raser. Parce que c'était... Vous auriez vu dans l'état dans lequel il était, on a quelques photos. Et encore, les photos, c'est après le nettoyage. Mais c'était horrible. Voilà, parce qu'il voulait, avec un bulldozer, raser tout ça. Et le Seigneur nous a dit non, je veux faire un temple. Et aujourd'hui, on a un temple. Est-ce qu'on est reconnaissant ou pas pour ce temple? C'est là la question du culte. Et si on méprise cela, eh bien, on méprise Dieu qui l'a donné. Et troisièmement, les sacrifices. Et les sacrifices, eh bien, c'est ça qu'on est en train, en ce moment, de réformer. Un sacrifice qui est donné au culte. Et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, attention à ne pas mépriser. Sinon, on est dans la même situation que Israël au temps de Malachi. Mépriser le retour d'exil des Huguenots, restauration du temple qu'il nous a donné ici, et le sacrifice de louange et d'autres sacrifices que nous lui devons. Il parle des aliments impurs, qui désignent les sacrifices d'animaux, donc au temps de Malachi, qui présentaient des défauts. Et vous, ils étaient malins. L'être humain est malin, hein. Qu'il soit juif, païen, n'importe quoi, dans tous les siècles, etc. Et en fait, il réservait les animaux qui étaient en train de mourir pour les donner au sacrifice, voyez, comme si Dieu ne le voit pas. Eh oui, bah, vous voyez, l'être humain est comme ça. Hein. Il est filou. Mais le filoutage, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu voit si on est filou ou pas filou. Allô? Ça vous dit quelque chose? Relisez les versets que je vous ai indiqués et vous verrez, Dieu leur reproche ça. Il dit, mais vous croyez que vous allez vous apporter des animaux avec des défauts? Alors je vous ai dit, est-ce que Dieu a besoin des animaux pour exister? Alors, vous avez déjà posé la question, pourquoi dans un culte, il y a des sacrifices d'animaux, je parle en Israël? Alors, ah, c'est des questions qu'il faut se poser hein, pour avoir des réponses. Bah, Dieu n'a pas besoin des animaux. Dieu n'a pas besoin du sang des animaux qui coule. C'est le cœur de ceux qui l'apportent qui est important. Donc si, dit dans Deutéronome, tu apporteras des animaux parfaits, sans défaut, sans tâche, c'est pour que voir si l'obéissance de celui qui va apporter eh bien, est dans un esprit de reconnaissance, de vénération, de culte authentique à Dieu. C'est nous qui sommes en cause, c'est pas Dieu. Dieu a pas besoin des sacrifices. Alors, vous avez déjà réfléchi à ça? Dieu a pas besoin de sacrifices, mais c'est nous, la qualité de notre sacrifice, qui démontre si on honore Dieu ou si on ne l'honore pas. Et là, à l'époque, eh bien, ils venaient avec des animaux souillés, Et le pire, c'est en accord avec les prêtres. Et c'est ça que dénonce Malachi. C'est que, parce que les prêtres, ils voient bien, les prêtres, ils faisaient que ça. Ils étaient au service permanent dans le temple. Donc vous voyez bien, s'il y a une patte cassée, hein, ils le voyaient. Mais ils fermaient les yeux. Parce que souvent, il y avait un petit billet. Vous savez les petits billets qui sont sur la table, là hein? Voilà, ben oui, un petit billet pour accepter l'animal. Vous voyez? Donc c'est de la corruption. Ça s'appelle de la corruption. Pas de fonctionnaires, mais de ministres du culte. Eh bien voilà, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé, les amis. Et le problème, c'est qu'il y a des complicités. Et Dieu le voit. Vous prenez Ézéchiel 8, vous voyez que les prêtres disaient « Ah oui, mais Dieu ne voit pas. Ben, » Sauf que dans Ézéchiel 8, vous voyez que l'Esprit de Dieu est parti du temple et il s'est posé ailleurs. Et c'était... une catastrophe, c'était l'exil ensuite après qui a suivi. Parce qu'il n'y a plus de protection. Vous ne pouvez pas demander la protection de Dieu si vous filoutez. Si vous filoutez Dieu, pensant qu'il ne voit pas. Dieu voit. Donc si tu donnes un sacrifice, tu le donnes de tout cœur. Et le meilleur que tu as. Et c'est là que tu peux avoir la bénédiction de Dieu. Amen. Dans Malachie 1, 8, 14, la loi exigeait des sacrifices sans défaut. Il interdisait tout animal aveugle, boiteux, malade, l'adorateur qui présentait un animal avec un défaut, et le prêtre qui les acceptait étaient tous deux coupables. Il y a même Dieu qui dit dans Malachie 1.13, l'Éternel est tellement fatigué de ses cultes, qu'il implore quelqu'un de fermer les portes du temple. Vous rendez compte? C'est dans le verset 10. Dieu est fatigué de voir qu'il n'y a pas de réformation dans les cœurs, voyez-vous. Et si nous, chrétiens évangéliques, qui nous targuons de voir la vérité, eh bien, ne faisons pas ce qu'il faut dans nos cultes, eh bien, nous fatiguons Dieu. Et à un moment donné, il n'en peut plus. Le comportement des Israélites était condamnable et condamné. Si vous prenez par exemple, juste un exemple, la cérémonie de l'ouverture des Jeux, il a montré l'état spirituel dégradé de notre humanité, de notre société. Qui exalte quoi? Qu'est-ce qui exalte? C'est quoi ce Dieu que je représente là? C'est Bacchus. Vous connaissez Bacchus? Je vous invite à aller à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui était déjà à l'Assemblée nationale? Dans les locaux, c'est le palais Bourbon, si vous voulez. C'était un palais qui appartenait au Bourbon. Qu'est-ce qui était dans ce palais? C'est votre assemblée, c'est national, tout le monde peut y aller. D'ailleurs, dans les débats, nous on était avec Jeunesse en Mission, avec les fabricants de joie. Et ils nous ont expliqué un guide, et dans les hauts, c'est réservé à n'importe quel citoyen qui vient, qui suit les débats. C'est des tribunes et ouvertes, parce que l'Assemblée nationale, vous avez vos représentants, les députés, mais derrière, c'est les citoyens, vous voyez. Dans une coupole, il y a les quatre dieux, et un des dieux, en grand, c'est Bacchus. Ouais, sous la coupole, qui est très très bien dessinée, c'était, Delacroix qui l'a dessinée. C'est Bacchus. J'étais là, j'étais, oh mince, c'est un dieu. Et vous voyez, quand vous regardez les dieux, les cultes à des dieux, c'est ça les idoles. C'est pas que l'image, mais derrière, c'est le dieu de quoi, Bacchus? Du vin et c'est toujours deux choses, pardon?
Des orgies.
Et des orgies. Parce qu'après le vin, vous êtes sous. Voilà, parce que le vin, c'est pas le vin en soi. Le vin gastronomique, ça soutient les aliments, donc c'est la civilisation. Mais le vin, pour le vin, vous êtes sous. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sous?
Des bêtises.
N'importe quoi. Et surtout la nudité. Vous découvrez la nudité, etc. Ça s'appelait, à l'époque, des Romains, des Grecs et des Romains, ça s'appelait comment ces fêtes-là? Ils avaient des noms.
Les bacchanales.
Les bacchanales. Vient de Bacchus, les bacchanales. Eh bien, les bacchanales, elles ont devenu tellement dévoyées que même l'empereur romain les a interdits. Je ne sais pas, c'est Justinien, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait même des morts. Il y avait des assassinats et tout. Mais quand vous êtes sous, vous faites n'importe quoi. Ça a été interdit. Et aujourd'hui, on les remet à l'honneur. Et vous? Ah oui, je ne vous ai pas montré. Moi, je l'avais sur mon truc, mais je ne vous l'ai pas montré. Ça, c'est Bacchus. Et c'est comme ça qu'il est dessiné à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi pour ça que la France a beaucoup de vin. Vous êtes d'accord? On exporte beaucoup de vin. Bon. Voilà. Mais le vin, ça réjouit le cœur. C'est pas mauvais. Mais en petite quantité. Il ne faut pas en abuser. Voyez. Tous les abus ne sont pas bons. Mais ça amène l'ivresse. C'est le vin et l'ivresse. L'extase et le désordre après. Et à la fois, c'est la civilisation et la sauvagerie. C'est un culte païen. Le panthéiste, donc on adore la nature, nature sauvage, et il a été assumé par ce monsieur, qui s'appelle Catherine, il a été assumé, il est très très heureux d'avoir pu faire ça, et on se moque ouvertement de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est une moquerie ouverte de la parole de Dieu. Et là, on est sans gêne, Et ce mépris ouvre eh bien, la porte à tous les débordements et au mépris de la parole. C'est grave, mais vous voyez, c'est simplement une révélation de ce qu'est la société, hein, et pas que française. Hein. Il y en a qui sont pires dans les débordements, et je ne citerai pas de pays, mais voilà, ça a été fait devant le monde entier pour dire maintenant on est libre de refaire des bacchanales. Hello ? Bacchanal ? Et on se plaint que les jeunes, ceci, cela, et on s'étonne. Ben oui, c'est l'exaltation du paganisme. Ce sont les bacchantes. Revenons à Malachi. Dans Malachi, au verset 11, il dit qu'il n'y a qu'une seule offrande, parce que dans un culte, on apporte une offrande. Et qu'une seule offrande qui est pure, c'est laquelle ? Dans un culte, on apporte des offrandes. Alors, j'arrive aux offrandes maintenant. Donc, les offrandes. Et quelle est l'offrande qui est la plus pure qu'on peut apporter, nous, dans nos cultes ? Vous connaissez l'agneau ? L'agneau pascal ? Eh bien, c'est l'agneau du sacrifice. Et qui est-ce qui est l'agneau aujourd'hui dans le culte rendu à Dieu ? C'est Jésus, osez le dire. La théologie chrétienne, c'est très, très clair. Hein, c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice. Dans Apocalypse, vous voyez que cet agneau, eh bien, il sera révélé. Jésus se manifestera aussi sous forme d'un agneau pascal, l'agneau qui a été immolé pour nous. Et nous devons apporter ce sacrifice. C'est pour ça, ce matin, j'ai vu personne avec un animal venir, etc. Mais ce que Dieu attend dans ce culte, c'est que vous apportiez Jésus dans votre cœur. Amen. Dans le culte, c'est Jésus qu'on doit apporter. Et si vous portez Jésus en vous, eh bien vous l'apportez avec vous, parce qu'il est en vous, il est avec vous, et vous lui permettez d'être cet agneau qui purifie, et on va le faire tout à l'heure, avec le repas du Seigneur. Jésus est la seule offrande pure qui est dépourvue de toute imperfection morale. Jésus a tout accompli. Jésus a été le sauveur parfait. Amen. Désormais, nous célébrons la scène, et on va le faire tout à l'heure. Et les chrétiens sont sujets souvent à la même négligence que les Israélites. Parce que pour la scène, souvent je lis la mise en garde. Attention, il peut y avoir des malades et des morts parmi vous. Voilà, parce que si on prend la scène indignement, il y a des conséquences. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas mépriser le Seigneur ni sa parole. Et l'Éternel tient au chapitre 2 dans Malachi les prêtres, bien sûr, pour responsables. Moi, je suis responsable. Si le culte ici ne se fait pas correctement, déjà pour moi et pour vous, c'est ça ma responsabilité. Donc le premier, c'est d'avoir un culte en esprit et en vérité. Amen. Parce que Dieu a dit, je maudirai vos bénédictions, même si moi, en votre nom, je prononce une bénédiction, si le culte n'est pas selon le cœur du Seigneur, eh bien, ça se transformera en bénédiction. Donc c'est très grave. Je terminerai pour l'actualiser dans notre culte à nous. Juste un mot pour dire que celui qui prend parti, voyez-vous, souvent dans les églises, il y a des problèmes, je prends parti pour quelqu'un. Eh bien ça, c'est mépriser Dieu. Pourquoi ? Parce que prendre parti pour quelqu'un, pour un autre, c'est mépriser Dieu qui, lui, est au-dessus des partis. Dieu n'est pas partisan de l'un ou de l'autre. Donc il faut avoir la crainte de Dieu et ne pas chercher la faveur des hommes. Parce que si on cherche la faveur des hommes, si moi je cherche la faveur de certaines personnes, bah, je vais me corrompre. Parce que moi, s'il faut, j'ai la faveur de Dieu en soumettant à la parole de Dieu. Donc un pasteur doit être soumis à la parole. Quelles que soient les personnes, ce qu'ils croient, ce qu'ils ne croient pas, il n'a pas à prendre parti. Et ça, c'est la première responsabilité pour que le Seigneur soit honoré. Amen. Alors, nous voulons réformer nos cultes. Réformer nos cultes, c'est déjà dans la louange, puisqu'un culte commence par la louange. Nous ne voulons pas que ce soit des concerts. Les concerts, on peut les écouter, vous avez aussi YouTube, vous avez toutes sortes de médias pour écouter des concerts de louange. Nous, on veut la louange, c'est-à-dire que tout le peuple apporte ce sacrifice de louange qui est agréable à Dieu. Deuxièmement, l'écoute de la parole. Nous ne voulons pas rechercher du brossage du sens du poil. Il y a des chrétiens, il y a des églises où vous venez, on vous brosse dans le sens du poil, donc quand vous venez, vous partez comme vous êtes, et même vous reluisez un petit peu plus. Non, il faut que la parole puisse nous interpeller pour nous mettre en cause, pour nous remettre un petit peu les choses, comme on dirait, d'aplomb. Et ça, c'est difficile aujourd'hui dans nos cultes. Enfin, dans les cultes en général. Ensuite, il y a le sérieux avec lequel nous venons à la table du Seigneur. Ce sérieux consiste à pardonner. S'il n'y a pas de pardon dans notre attitude, le Seigneur a dit, vous devez pardonner parce que je vous ai pardonné. Voyez-vous, donc, dans la scène, quand on prend la table du Seigneur, avant, il faut se remettre en cause, et si on a quelque chose contre quelqu'un, il faut se mettre en règle. Ça, c'est donc pratiquons-le. Pratiquons-le selon ce que votre sensibilité. Il y en a qui le font direct, d'autres qui le font indirectement. Voilà. Mais il faut qu'il n'y ait pas de choses entre nous, parce que sinon, ça freine l'Esprit du Seigneur et il ne donne pas sa bénédiction. Il y a aussi le respect de la maison de Dieu. C'est vrai que nous, on a des temples qui n'ont pas, heureusement, d'idoles et tout ça, mais en même temps, c'est quand même ici la maison de Dieu qui reçoit le peuple de Dieu, donc il faut le respecter. Il y a le respect des frères, les frères et sœurs dans la foi, où nous prenons le temps de nous encourager à la fin des cultes, prenons le temps de prier les uns pour les autres. Voyez-vous, ça fait partie du culte, parce qu'il y a la croix, et l'horizontalité, la croix vers Dieu et le frère et soeur. Et nous ne pouvons pas séparer les deux. Jésus a dit, le premier commandement, c'est aime ton Dieu, et deuxième, aime ton frère. Donc ça fait partie aussi de cela. Apportons des sacrifices qui nous coûtent, et qui soient agréables à Dieu. Je ne dis pas, il faut donner la dîme si vous n'avez pas d'argent. Il y a des églises dans lesquelles on vous oblige même à faire des emprunts pour payer votre dîme ou pire. Non, non. Vous donnez ce que vous pouvez, mais vous donnez de tout cœur. La femme que Jésus a louée, elle a donné une pièce. Une pièce. Voilà. Mais il a dit, il a tout donné. Voyez-vous, c'est la qualité de votre don qui est important. Et nous devons réformer nos voies. Pas simplement écouter la parole, mais la mettre en pratique. Ça, c'est un culte qui honore Dieu. Si de dimanche en dimanche nous venons comme nous sommes et qu'il n'y a rien de changé et que nous savons que nous devons changer, ça ne plaît pas au Seigneur. Et donc apprenons la diaconie. La diaconie, c'est le service. Jésus répondit à ceux qui l'ont interrogé, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Voilà. Donc le service, et c'est ce que Charles vous a dit, je n'avais pas demandé de le faire, mais il l'a fait tout spontanément. Et où l'organigramme, c'est ça. C'est Christ, le pasteur qui est responsable et qui doit répondre du culte qui va être pratiqué. Il y a l'espace qui est marqué ici, l'épiscopé. L'épiscopé, c'est la surveillance. C'est le principe de surveillance, veiller sur le troupeau. Voilà. Donc ça, c'est les pasteurs et les anciens. Il y a le conseil, où on se réunit pour prendre des décisions ensemble. Il y a la diaconie et il y a l'assemblée. Et tous les gens de l'assemblée devraient être dans la diaconie, dans le service. Voyez-vous. Donc il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Il y a simplement trois choses, et le côté de le rôle pastoral, le côté épiscopal et le côté de la diaconie. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de titre. Voyez, c'est ça qui est aussi la réforme dans laquelle nous nous engageons aujourd'hui pour refaire partir cette église sur de bonnes bases, sur une base qui glorifie son nom, où le Seigneur va amener la bénédiction. Est-ce qu'il y en a qui veulent la bénédiction sur cette église? Ben, il faut répondre aux exigences du Seigneur, c'est tout. Et j'aime beaucoup aussi le leadership de Gilles, qui nous encourage à cela, parce qu'il a été formé aussi depuis tout jeune dans cette dimension. Et j'aime aussi la famille Elim, qu'on vient de voir, on parlera plus longuement, qui est aussi dans cette dimension, qui a gardé cette dimension du culte, qui honore le Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière avant de passer au repas du Seigneur. Père, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole que tu nous as laissée pour que nous puissions la mettre en pratique. Et même ce prophète que tu as suscité, Malachie, qui a donné les instructions pour que les Israélites puissent se mettre en conformité avec ta parole. Et Seigneur, tu as envoyé Jésus, ton Fils, parce que tu voyais que les hommes ne sont pas capables de répondre à ces exigences. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons reçu ton esprit. Et Seigneur, tu nous donnes la capacité de le faire. Seigneur, donne-nous la bonne volonté. Seigneur, de ne pas mépriser ta parole, mais de relever, Seigneur, vraiment cette interpellation que tu nous fais, Seigneur, afin que nous puissions glorifier ton nom. Et que nous puissions être une église, Seigneur, qui pouvons passer ce bâton brûlé, prendre celui que nous avons reçu de nos aînés et le transmettre, Seigneur, avec diligence, avec l'autorité et avec la confiance, Seigneur, que tu vas faire des grandes choses dans cette région parce que ton église va être à ta gloire. Seigneur, conduis-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.